Bonjour, ici Evelyne pour Trouver dans les rayons. Donc aujourd'hui, j'avais prévu au début de vous parler de l'une d'elles, une bande dessinée de Una, qui est une bande dessinée sur un sujet assez sérieux et difficile. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas eu une très bonne journée. Il m'est arrivé des choses plates que je trouvais difficiles. Donc je vais discuter de quelque chose d'un peu plus léger. Je vais discuter de d'une bande dessinée de science-fiction, qui est La révolte des Valtis. Donc, c'est une bande dessinée faite par Molly Knox Ostertag et Sharon Chin. Molly, c'est elle qui a dessiné et écrit Le garçon sorcière. Et puis, Sharon Chin, c'est une autrice qui a fait plusieurs romans, je crois. Et puis, les deux ensemble, donc, ont collaboré pour créer un album, un comic. Ça a été publié en comic book originalement, puis ça a été réédité en graphic novel, puis en bande dessinée cartonnée. Quoi, je ne sais pas si c'était cartonné. Dans la bibliothèque, on cartonne tout le temps les livres. Fait que celle-là, je ne suis pas certaine que c'était cartonné à l'origine. En tout cas. Donc, la bande dessinée raconte l'histoire d'une ville qui est sous occupation par un peuple extraterrestre. Donc, c'est une ville qui pourrait être située un peu n'importe où dans le temps, presque, là, plus dans une époque moderne, parce qu'il y a quand même des choses modernes qu'on voit, mais c'est pas non plus, t'sais, vraiment défini à quelle époque ça se passe. Même chose pour le lieu, c'est pas non plus précis, précis. On a l'impression que ça se déroule en Amérique du Sud, mais c'est pas certain, t'sais. Puis, il y a beaucoup de personnages qui semblent être d'origine latine. Il y a aussi du monde avec différentes couleurs de peau, tout ça. C'est comme varié comme population d'humains. Puis, il y a aussi les extraterrestres. Les extraterrestres, c'est les Drix. Les Drix sont comme un peu dans la tradition des extraterrestres dans Star Trek. Ils sont très humains. Ils sont comme un peu plus grands que les humains. Ben, quand même, ouais, assez grands, là. Puis, ils ont la peau un peu plus comme grisâtre ou bleutée, ou comme gris, blanc. En tout cas, ils ont des teintes de peau un peu différentes. Puis, ils ont des traits un peu plus animalistiques, un peu. Ils ont comme des crocs, ils ont des oreilles un peu allongées. Puis, c'est comme un peuple guerrier aussi, qui fait penser un peu penser aux Klingons, peut-être, tu sais. Mais, fait qu'ils sont là sur la Terre pour exploiter des ressources minérales, parce qu'ils ont besoin d'un certain minéral, d'un certain minéraux qui leur permet de faire fonctionner leur vaisseau spatial. Donc, ils extraient ces minéraux-là de la Terre, puis ils utilisent les humains pour travailler dans les mines, parce que c'est un travail très dangereux, puisque les mines sont très peu sécuritaires, tout ça. Puis, fait qu'il y a des humains qui travaillent dans les mines, puis aussi des humains qui travaillent dans des usines ou de triage comme des minéraux, puis de raffinement. Puis, ces minéraux-là qui servent à faire fonctionner le vaisseau, comme si on a une propriété spéciale qui dégage beaucoup d'énergie. Puis, certains comme sous-minéraux, comme des minéraux pas bons, comme de cette sorte-là, que les extraterrestres n'utilisent pas parce qu'ils sont pas assez purs, qu'ils sont pas assez bons, ils peuvent servir aussi à faire des explosions, faire comme des bombes. Puis, donc, il y a comme des humains qui utilisent ces minéraux-là, qui les volent dans les usines, puis qui les transportent en très légère quantité pour éviter les détecteurs, puis pour les donner à la résistance. Puis la résistance, ils les utilisent pour faire des bombes, pour comme lutter contre l'occupation. Fait que donc, il y a ça. Le personnage principal, c'est Colleen. C'est une femme. J'ai l'impression qu'elle est d'origine latine. Puis, elle fait partie d'une famille qui était comme une famille de nobles, une famille riche, qui était comme importante dans la ville, tout ça. Mais bon, elle a tout perdu ses privilèges depuis l'occupation. Puis, comme maintenant, elle doit travailler dans l'usine de tri des minéraux, comme tout le monde. Le seul privilège qu'elle a conservé, c'est qu'elle vit encore dans son espèce de villa familiale, qui est un peu à l'écart de la ville. T'sais. Mais bon, ça va y apporter aussi des certains problèmes. Donc, fait qu'il y a comme deux niveaux de conflit dans le récit principal. Il y a le conflit avec les Drix, avec les extraterrestres. Puis il y a le conflit aussi avec comme les gangs de rue humains. Parce que dans la ville, c'est devenu très difficile de vivre, parce qu'il y a comme beaucoup de pression à cause de l'occupation. Fait qu'il y a comme des gangs d'humains qui se sont formés, qui sont comme des espèces de clans, un peu comme tribaux, là, qui se battent entre eux autres, puis qui luttent pour survivre, puis qui sont souvent comme très violents, ils ont comme un code personnel, là, tout ça. Mais comme ils sont intenses, là. Puis, eux autres, ils travaillent pas dans les usines, tout ça. Fait qu'ils vivent en marge aussi comme de la société. Puis, fait qu'il y a des conflits avec eux autres, t'sais. Puis il y a des conflits aussi avec les extraterrestres. Fait que c'est deux pôles-là de violence. Il y a comme la violence qui est apportée par les oppresseurs, par les envahisseurs, qui pressurisent le milieu social, qui crée de la pauvreté, qui crée des inégalités, tout ça, puis qui amène d'autres violences entre que les humains propagent entre eux, tu sais, qui s'imposent les uns sur les autres. Fait que ça, c'est intéressant de voir cette dynamique-là dans le récit de science-fiction, tu sais. Donc, qu'est-ce qui arrive à Colin, c'est que elle va comme développer une relation avec un de ces humains-là qui fait partie des gangs. Puis ça va y apporter beaucoup de problèmes. En même temps, elle va comme tout le temps subir comme la pression, la violence provenant des gangs, provenant des extraterrestres. Puis à un moment donné, comme elle n'en peut plus d'être tout le temps comme dans la défensive, puis dans la survie, tu sais. Elle a envie de prendre action. Puis de pouvoir agir, d'avoir un pouvoir d'action. Puis donc, elle va décider d'aider la résistance, puis de voler des petites particules de minéraux, de minerais, pour apporter à la résistance, pour qu'ils puissent créer leurs bombes. Puis ça va y apporter plein d'autres problèmes, tout ça. Puis il y a aussi comme un des Drix qui essaye comme d'abuser d'elle un peu. Puis il y a comme un contraste entre un Drix qui est comme, ben, il y a comme le Drix oppresseur, qui est comme son espèce de supérieur, mais aussi un autre Drix qui est comme un garde, qui est comme gentil avec elle, puis qui est comme, mais tu sais, qui reste comme quand même dans une position de pouvoir, là, comme par rapport à elle. C'est quand même un personnage comme intéressant, ce personnage-là. Il est pas super développé, là, on voit pas beaucoup son point de vue à lui, là, mais tu sais, c'est que souvent les autres humains disent: ah, mais fie-toi pas à lui, c'est un Drix. Les Drix, tu peux pas leur faire confiance, il va te faire du mal éventuellement. Puis Colin est là comme: non, lui, il est plus comme correct, il me protège, tu sais. Mais en même temps, on sent qu'il veut quelque chose d'elle, tu sais, que lui aussi, il la trouve à son goût. Puis, sauf qu'il peut pas avoir une relation d'égal avec elle, parce qu'il est comme en situation de pouvoir sur elle, tu sais. Puis, fait que plus tard dans le récit, il y a comme son supérieur se fait comme assassiner. Puis lui, ce Drix-là, qui est comme gentil avec Colin, il monte en rang. Puis c'est lui qui devient en charge de l'usine de traitement des minéraux. Puis finalement, vu qu'il reste comme en position de pouvoir sur Colin, c'est comme leur relation devient de plus en plus inégal et abusif. Fait que, tu sais, vers la fin, ses amis humains ont comme raison que. Puis, ça de. À un moment donné, t'es comme: ah, ouais, mais c'est bizarre que l'autrice allait décider de présenter tous les Drix comme étant comme abusif, ou, tu sais, comme étant comme un peu toxique, ou, tu sais, violent, tout ça. Puis, si tu vois, à un moment donné, lui, il est comme, il disait: ok, mais tu sais, j'aimerais ça comme t'amener avec moi pour te faire montrer ma planète ou les autres places que j'ai voyagé dans l'univers, tout ça. Mais elle, Colin, elle veut pas, tu sais, c'est pas, ça sort de nulle part. C'est comme lui qui lui impose ça en s'imaginant qu'il fait comme un cadeau, tu sais. Puis elle est comme, elle refuse ça. Puis là, lui, il est pas content parce qu'elle refuse, tu sais, il accepte pas son refus du tout. Puis là, j'étais comme: ouais, mais c'est vrai que, tu sais, lui, il reste comme dans une position de pouvoir par rapport à Colin, tu sais, pour qu'il puisse devenir vraiment ami, qui est peut-être possible, probablement possible, mais il faudrait qu'il abandonne son pouvoir de supérieur sur elle, tu sais. Il faudrait qu'il arrête de travailler pour l'Empire Drix. Il faudrait qu'il arrête d'être un soldat, quelqu'un qui abuse des êtres humains, là, tu sais. Puis là, il pourrait comme peut-être avoir une relation d'égal à égal, une relation positive, mais tu sais, cette relation-là est comme automatiquement comme débalancée par sa relation, sa position de pouvoir sur elle, là.
En tout cas, ça apporte des réflexions intéressantes, je trouvais, cette relation-là entre ces deux personnages-là. Mais la BD explore surtout la relation entre Colin et un guerrier qui s'appelle Jan, qui vient des gangs de comme tribales, d'humains, comme qui vivent en marge de la société. Puis, tout ça. Fait que c'est comme. C'est aussi Colin qui devient comme qui s'endurcit de plus en plus, tu sais, qui essaie comme de ressentir moins de choses à cause qu'il est tout le temps dans un milieu oppressant. Puis là, à un moment donné, au contact de Jan, qui est plus romantique, qui vit plus comme librement un peu aussi, là. Mais quand même, il subit de la violence lui aussi, là, mais il est plus émotionnel aussi, tout ça. En tout cas, puis là, les deux, comme, ils se balancent un peu, puis à la fin. Réussir à s'ouvrir un peu, tout ça. Fait qu'il y a comme aussi leur récit, là, est beaucoup à propos de leur relation entre ces deux personnages-là, qui est quand même bien exploré, là, qui est quand même bien fait, là, je trouve ça bien, là. Puis, c'est quand même intéressant. Il y a aussi d'autres personnages secondaires aussi qui ont comme des relations intéressantes avec Colin, tout ça. Puis aussi la nièce de Colin, qui est aussi un personnage intéressant, qu'on voit qu'elle, c'est comme la prochaine génération qui grandit dans ce contexte social-là, puis comment ça l'affecte, tout ça. Ça aussi, c'est intéressant à voir. C'est une des forces de la science-fiction, d'explorer des situations sociales complexes comme ça, tu sais, de pouvoir construire comme une société fictive, puis de pouvoir comme l'explorer au travers des personnes qui l'habitent, des personnages, tout ça. Puis de faire comme, tu peux mettre ensemble différents personnages qui viennent de différents morceaux de cette société-là, tu sais, puis de les faire interagir entre eux autres. C'est tout le temps comme intéressant. Je trouve que c'est vraiment un outil chouette de la science-fiction, là, qui est comme, qui apporte beaucoup de réflexion, qui peut être aussi fait très bien avec dans le genre plus de fantasy aussi. Puis les deux sont comme, peuvent servir d'outils, de méthodes pour explorer ces situations-là fictives. Puis ça permet aussi de discuter puis de réfléchir sur des choses qui sont liées à notre réalité, mais avec une certaine distance. Ça aussi, c'est bien, tu sais, ça fait que ça enlève comme une certaine charge, comme émotionnelle ou historique, tout ça. Ça permet d'abstraire plus les choses aussi, mais vu qu'on a aussi un élément fictif, fictionnel, ben ça permet aussi de rendre certaines choses aussi personnelles, tu sais. Je veux dire, au travers des personnages, tu sais, d'avoir comme un lien affectif avec ces personnages-là, dans un différent contexte, tout ça. En tout cas, je trouve que la science-fiction, c'est tout le temps comme chouette, ça, pour faire des réflexions comme à ce niveau-là, comme social, des trucs de société, tout ça. Donc, j'aime beaucoup ça. Fait que c'était intéressant, là, pour ça. Puis, fait que c'est ça, vers la fin du récit, les personnages font comme la résistance, fait comme une espèce de révolte, là. Et ils vont comme libérer du monde dans les mines, tout ça. Puis ils font comme exploser une espèce de croiseur des Drix, des extraterrestres. Puis ça finit comme sur une note d'espoir, tu sais. Puis j'étais comme c'est bien, tout ça. Sauf que je trouvais comme. Un peu déprimant, c'est que j'étais comme moi, mais tu sais, en réalité, les peuples comme sous occupation, comme je veux dire, si on pense aux Premières Nations, tout ça, aux Autochtones, tout ça, ils ont comme pas vraiment cette chance-là, ils ont pas, tu sais, de faire comme une espèce de révolution comme ça, tu sais, ils vont. Sans rapporter dans la science-fiction, dans le truc du récit. Tu sais, dans le fond, est-ce que les Drix vont revenir avec une armada, puis qu'ils vont juste, comme, tu sais, augmenter leur force armée, l'occupation? Est-ce que, tu sais, c'est ça, là. Est-ce qu'une révolution est vraiment possible, tu sais? Ou si ça va être seulement au travers d'une espèce de lente assimilation, que les humains vont pouvoir s'insérer dans la société Drix, puis d'acquérir une éducation Drix pour s'émanciper, puis après ça, faire des demandes de changement social, tu sais. Puis ça va prendre des générations pour que les humains réussissent à faire ça, tu sais. Puis est-ce que ça va, tu sais, puis ça, pour que ça arrive, il faut aussi que ça devienne comme un avantage pour les Drix, pour qu'eux autres, ça soit comme plus avantageux pour eux autres de laisser les humains s'insérer dans leur population, comme, de s'intégrer au lieu de les garder sous oppression, sous occupation, comme des citoyens de seconde classe, là, tout ça. Fait que, tu sais, il y a comme cette réflexion-là aussi, je trouve, qui pourrait être intéressante à pousser plus loin dans ce contexte-là de fiction-là. C'est ça. Parce que là, le récit s'arrête là, tu sais, s'arrête après comme cet acte de révolution-là, qui donne beaucoup d'espoir pour les humains, tout ça. Puis c'est comme, ok, mais après ça, qu'est-ce qui arrive après, tu sais? Ça reste ouvert dans le récit. Mais j'étais comme, ouais, tu sais, est-ce que c'est vraiment possible pour eux de s'affranchir de ça? En tout cas, c'est sûr qu'il y a aussi toute une réflexion sur, justement là-dessus, sur comme. Est-ce qu'il faut comme oser, c'est comme désirer quelque chose de mieux, tu sais. Il y a ça aussi là de que la BD comme elle explore. En tout cas, c'est certain que je trouve que c'est une bonne bande dessinée, très réussie, très intéressante. J'aimerais ça comme est-ce que j'aimerais ça voir une suite? Ça pourrait être intéressant, oui, comme je disais, ça pourrait comme explorer la suite des choses, mais il faudrait que ça soit comme plus tard dans le futur. J'aimerais ça voir ça peut-être. Mais bon, en même temps, c'est un récit qui se tient très bien. Bon, là, mon chat, il se nettoie à côté. Là, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat. Fait que. Ouais. Donc, c'est une science-fiction, plus science-fiction sociale, qui est très proche, je trouve, de la science-fiction en bande dessinée, écrite par Jeff Lemire. Puis aussi, qui m'a fait penser beaucoup à la bande dessinée qui a été traduite il y a pas très longtemps, là, Titan. Attendez, je vais vous dire. C'est ça, Titan de François Vigneault, qui était publié aux éditions Papaw en français. Donc, ça aussi, c'était une BD très intéressante de science-fiction à lire, là, beaucoup plus axée sur les relations interpersonnelles des personnages dans leur contexte comme socio-culturel, là, comme. De science-fiction, tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de la science-fiction comme plus au niveau t'sais, des technologies, là, qui est plus comme axée sur une projection dans le futur d'une technologie ou t'sais, comme des affaires de soap-opéra, des trucs de même. C'est plus comme explorer une situation fictive, sociale. De dépeindre cette situation-là, puis d'utiliser différents points de vue pour l'explorer, puis la regarder, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, là. Puis je trouve que j'aimerais ça voir ce genre de science-fiction-là aussi être plus exploré en bande dessinée québécoise, tu sais. Puis je pense qu'on a le potentiel pour faire ça, parce qu'on a beaucoup d'auteurs, puis d'autrices, tu sais, qui sont comme intimistes. Puis je trouve que ces auteurs-là, ces autrices-là, comme intimistes, pourraient faire de la bonne science-fiction sociale comme ça. Tu sais, de prendre une situation qui est comme fictive, qui est simple quand même, qu'il ne faut pas que ce soit trop compliqué, puis d'essayer de l'explorer au travers de la science-fiction. Ou même du fantasy, ça pourrait être aussi possible, là, comme je disais. Mais surtout au travers de la science-fiction, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant, là. Puis je pense que ça, on a un pool d'auteurs et d'autrices qui peuvent comme aller explorer ça, puis aller dans la profondeur des personnages, puis de leurs relations, puis de démontrer aussi une certaine diversité de personnages, tu sais. Ça serait intéressant à voir en bande dessinée issue de la francophonie québécoise, là. En tout cas, j'aimerais ça voir ça un peu plus, là. Naturellement, ça m'a fait penser à la critique dans Le Devoir qu'il y a eu il y a quelques années, là, qui était à propos comme de dire que il y avait trop d'auteurs et d'autrices comme intimistes au Québec, puis que ça nuisait à l'émergence de la science-fiction, tout ça. Puis, mais je trouve que c'est complètement faux comme analyse, là, c'est complètement erroné, parce que je trouve que justement, je trouve que. C'est possible pour ces auteurs-là, là, intimistes, de faire une science-fiction sociale là, qui pourrait être vraiment chouette puis vraiment intéressante. Là, t'sais. Puis, si on regarde ça là, comme ces auteurs-là, comme la BD là, de La Révolte des Baptistes de Sharon Shin, t'sais, si on regarde Titan, si on regarde plusieurs bandes dessinées de science-fiction de Jeff Lemire, il y a tout le temps ce mélange-là d'intimité, d'interrelation entre les personnages dans un contexte de science-fiction. Puis je trouve que ça fait de l'excellente science-fiction qui est beaucoup plus comme prenante, là, qui va te chercher, tu sais, un niveau personnel puis un niveau humain, là, tu sais, c'est très humaniste aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est possible d'explorer ça de façon intéressante, là. Plus qu'une science-fiction qui est comme vraiment juste axée, supposons, soit sur des réalisations techniques ou sur une exploration d'un certain fantastique, là, tu sais, comme d'aller comme vraiment juste comme qui est juste à propos d'explorer comme une espèce d'étrange ou ouais, ça aussi, tu sais. En tout cas, c'est sûr qu'il y a possibilité aussi de mélanger les deux, là. Je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre, naturellement. Ça, je suis d'accord là-dessus, là. Mais je veux dire, il faut pas comme dire que c'est impossible au Québec pour les auteurs et les autrices de créer de la science-fiction, là, parce qu'ils ont comme un style intimiste, là. Puis je pense que justement, c'est une science-fiction plus intimiste pourrait probablement rejoindre des lecteurs puis des lectrices plus aisément, puis que ça pourrait être plus intéressant justement pour des éditeurs de publier ce genre de science-fiction-là. Donc ce n'est pas un genre de science-fiction à ignorer. Puis en littérature, là, il y a beaucoup de science-fiction sociale qui se fait aussi, puis qui est super intéressante, là. Donc à réfléchir. Donc, je pense que je vais arrêter là-dessus. C'est peut-être un épisode plus court, je sais pas. Mais j'ai un peu la voix scrap là, ce soir. Je suis pas satisfaite de ma voix, là, malheureusement. Ah, ça dépend des jours. Tu sais, il y a des journées que je suis comme contente de ma voix, là. Comme cette semaine, j'ai une super belle journée à la bibliothèque où j'étais comme. Il me semble que je trouvais que ma voix comme sortait bien. Puis ça m'a fait du bien aussi, là, tu sais. Parce que certaines genres d'autres journées où j'ai l'impression comme soit de pousser un peu trop ma voix ou qu'en tout cas c'est pas évident. Je trouve que c'est vraiment dur de contrôler ma voix comme il faut, là. Puis fait que ça complexifie un peu mes podcasts, t'sais. C'est sûr que j'aurais pas besoin de pousser ma voix, de moduler ma voix là, pour essayer d'avoir une voix qui me permet de me sentir plus à l'aise là, par rapport à mon genre, tout ça, là, tu sais. Ça serait plus simple pour moi de faire mes podcasts, c'est certain. Fait que, tu sais, j'ai cette petite complication-là de plus là, à gérer pour faire mes podcasts. C'est drôle parce qu'au début, tu sais, je faisais des vidéos sur YouTube, puis je me disais, ah ouais, mais tu sais, ça m'handicape trop, c'est trop difficile comme pour moi de gérer mon image, de pouvoir apparaître en caméra quand je veux, parce qu'il faut que je sois maquillé, arrangé comme il faut, tu sais. Puis tu sais, je me comparais beaucoup à mes amis garçons, qu'eux autres qui enregistrent leurs vidéos comme à la bonne franquette, là, comme genre en conduisant en voiture, tu sais, souvent. Puis moi, ben, tu sais, c'est sûr que j'avais pas cette possibilité-là de faire ça, tu sais, il fallait que je sois comme tout comme maquillé, tout ça, arrangé. Fait que je me suis dit, ben, j'ai arrêté de faire des vidéos, Colin, je vais faire des podcasts, ça, genre juste ma voix, tu sais, j'aurais pas mon image. Fait que ça va être comme, je vais être comme égal à une personne cisgenre, tu sais. J'aurais pas comme d'handicap, entre guillemets. C'est ça, mais j'avais pas pensé à ça, que, tu sais, ma voix elle-même, faut que je la pousse, faut que je la module, la contrôle, tu sais. C'est pas tout le temps facile. Comme cet épisode-là, je serais pas capable de le réécouter, c'est certain. Bon. C'est sûr que je réécoute pas trop mes épisodes, c'est rare, mais des fois j'aime ça regarder un peu ce que ça donne pour voir un peu. Puis ça m'aide aussi à corriger un peu mes défauts là, de tic, de langage, tout ça, ce qui est pas du tout facile à contrôler. J'admire beaucoup les personnes qui font des podcasts qui ont comme vraiment comme un débit là, bien contrôlé, tout ça, puis qui n'utilise pas comme plein de tics verbaux, là, puis d'expressions, tu sais, comme des hésitations, qui n'ont pas tout le temps des oui, mais, des t'sais, ou des peut-être que, tu sais, en tout cas, ils ont pas tout le temps comme des micro-expressions qui s'incrustent dans leur narration, là, pendant qu'ils parlent, tout ça, là, en tout cas. Fait que moi, ouais, ça, je respecte beaucoup les personnes. Depuis que j'ai essayé de faire des vidéos puis des podcasts, là, je respecte beaucoup les personnes qui font des vidéos puis qui font aussi des podcasts puis qui arrivent à avoir comme un discours comme fluide puis clair, là, tout ça. C'est mine de rien, ça prend de la pratique, tu sais. Puis en tout cas, c'est intéressant aussi. Même chose que mes amis qui certains de mes amis qui font des du streaming là, comme en direct là, puis qui sont comme qui jouent à un jeu vidéo puis qui parlent en même temps avec les auditeurs et qui leur écrivent des commentaires de manière comme tout en restant concentré sur le jeu là, mine de rien ça aussi ça prend une certaine pratique là, puis j'ai essayé de le faire ça aussi puis je trouvais ça difficile t'sais. Puis je respecte là-dessus tu vois là je dis tout le temps pieux je me rends compte de ça. Oh là là. Fait que c'est pas évident donc ouais. Fait que c'est ça. Ah, je m'excuse pour ma voix, là. Bon. En tout cas. Fait que le prochain épisode va être probablement meilleur. Ça, c'est un des épisodes de... Oh, que je pense que j'aimerais pas beaucoup, là. Mais bon, je suis quand même content d'avoir parlé de science-fiction, parce que j'aime beaucoup la science-fiction. Puis de la bande dessinée aussi, tout ça, là. Puis aussi des auteurs intimistes québécois que j'apprécie beaucoup, là. En tout cas. Puis, donc... Je vais vous laisser là-dessus, là. Le prochain épisode, je vais essayer de faire une des BD là, que, plus intense que j'ai lu là. En tout cas, j'aimerais ça parler de l'une d'elles parce que ça m'a comme affecté là, comme bande dessinée. C'était pas mal intense. En tout cas. Bon ben je vous reparle de tout ça. Au revoir. Merci. À bientôt.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.